bonjour à vous, bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Donc ce curieux cours d'été, vous travaillez fort, je le vois. Il commence à faire beau et chaud, donc j'imagine que c'est difficile. Il y en a certains qui ont de la difficulté à tenir le rythme. C'est sûr que je vous lâche pas, je suis assez moi aussi engagé dans ce cours, mais il faut voir que moi, c'est mon boulot. Donc, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui ont d'autres cours, d'autres activités. Il y en a qui travaillent en plus, qui ont des stages, qui ont donc tout ça. C'est ajouter la COVID-19 à tout ça, là, ça crée un contexte qui est difficile, exigeant. Je sais que vous travaillez fort, puis même si vous ne travaillez pas exactement au même rythme que moi, c'est pas grave. Il y en a plusieurs qui progressent très bien dans ce cours. Aujourd'hui, je vous ai réservé un module qui est très intéressant, selon moi, disons très pertinent. Je l'ai mis en place. Vous le verrez, là, c'était un problème récurrent que je voyais lorsqu'on me parlait de l'exercice de la profession et des problèmes éthiques rencontrés. Il y en avait un particulier qui était commun, fréquent, mal compris, mal géré. Puis c'est de ce problème-là aujourd'hui que j'aimerais discuter avec vous. J'en profite pour saluer ceux et celles qui écoutent le podcast, qui sont là aussi en ligne avec la classe synchrone. Je le disais un peu en pré-enregistrement. C'est intéressant de voir là, que ce groupe-là, à distance synchrone, qui est là semaine après semaine, si on l'additionne à ceux et celles qui téléchargent les podcasts, ça fait quand même un beau groupe d'étudiants. À peu près une centaine, je dirais, là, qui sont là systématiquement, semaine après semaine, qui ont besoin de ce rendez-vous hebdomadaire. Donc, c'est quelque chose que je vais répéter, évidemment, pendant les prochaines sessions, je vous le garantis. J'en profite donc pour faire mention, lors du dernier podcast, j'ai publié un podcast extra là, que j'appelle « L'éthique au travail ». Donc, vous comprenez là, les deux sens de tout ça, là, l'éthique au travail au sens l'éthique en mouvement et en même temps le travail comme lieu. Donc, l'éthique dans ce milieu qu'est le milieu de travail. J'ai publié cette semaine une entrevue avec Simon Archambault. Je vous invite vivement à l'écouter, cet épisode-là. En fait, si vous n'avez jamais écouté les podcasts, c'est sûr que si vous êtes en ligne ici, ça peut peut-être pas vous intéresser de réécouter la même introduction, mais au moins ces épisodes-là extra, c'est des discussions avec des étudiants qui ont suivi le cours et qui, là, maintenant, exercent la profession. Puis ils viennent nous raconter les problèmes rencontrés, les pistes de solutions qu'ils ont trouvées. Entre autres, Simon, lui, il m'avait écrit, ça arrive souvent, là, curieusement, les étudiants, après le cours, ils m'écrivent, ils ont rencontré un problème, ils ne savent pas trop à qui s'adresser, ils ont besoin, c'est sûr que je ne fais pas non plus du service conseil, mais en même temps, en fait, des fois j'en fais malgré moi, là, mais c'est ça, ils m'écrivent, ils ont besoin un peu de rétroaction, souvent c'est ce que je vais faire avec eux. Simon, à l'époque, m'avait écrit avec un problème qui était quand même important. Puis ensemble, à travers non seulement des échanges par courriel, mais quelques discussions, on a essayé de trouver des pistes de solutions ensemble. Puis Simon est venu raconter lors de ce podcast. Il est venu nous raconter le problème rencontré, les pistes de solutions que lui a trouvées puis a déployées dans son milieu de travail. Donc, je vous invite à aller... écoutez ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je rencontrais souvent mes étudiants sur le campus ou ailleurs. Puis c'est sûr que lorsqu'on croise son ancien prof d'éthique, ben les premières histoires qui sortent, c'est des problèmes éthiques rencontrés. Donc souvent, c'est le genre de discussion que j'avais avec mes étudiants. Puis je trouvais intéressant, sinon important, de les partager avec vous, les étudiants qui suivent le cours, pour voir, bon... Est-ce que c'est théorique tout ça ou est-ce que concrètement ça se manifeste? Est-ce que c'est vrai tout ça? Donc, d'entendre les histoires de vos collègues, futurs collègues peut-être, je trouvais ça pertinent donc pour vous là, de voir à quoi ça peut ressembler concrètement. Puis aussi, c'est le secret caché là, de tout ça, c'est que j'essaie de tisser aussi, de créer une communauté, non seulement entre mes étudiants, qui suivent le cours, mais entre les étudiants qui ont suivi le cours. Donc, on a une belle communauté, c'est à peu près 200 étudiants par session. À la fin, ça fait beaucoup de monde. Puis si on peut créer une vraie communauté, discuter des enjeux éthiques, trouver des pistes de solutions, si ce n'est pas votre ordre professionnel qui peut vous aider, peut-être qu'entre vous, là, vous pourrez peut-être vous aider, se créer des lieux comme ça pour en discuter, en débattre. Donc, je vous invite à écouter cet épisode-là. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, puis je suis sûr que vous allez avoir beaucoup de plaisir à l'écouter. OK. Commençons le cours d'aujourd'hui par quelques questions. Ça mettra la table pour le cours d'aujourd'hui. Si je vous demandais, ici et maintenant, de choisir entre votre intérêt personnel, donc par intérêt personnel, je parle du vôtre, évidemment, mais celui de vos proches, de vos parents, amis, alliés, nommez-les comme vous voulez. Donc, si je vous demandais de choisir entre ça et d'autres intérêts qui sont liés à l'exercice de votre profession, protection du public, paix sociale, santé publique, qu'est-ce que vous choisiriez? Donc, idéalement, ben, peut-être que vous me répondriez, ben, je ferais peut-être le sacrifice de mon intérêt personnel pour choisir d'autres intérêts. Mais concrètement, si on se pose maintenant cette question, qu'est-ce que vous choisiriez? Je pose la question, je la laisse ouverte. Je vous demanderai seulement, avez-vous déjà rencontré ce genre de dilemme? Donc, d'un côté, votre intérêt personnel et d'autre, des intérêts autres. Donc, quel genre de décision avez-vous tendance à prendre lorsque d'un côté, vous avez vos intérêts personnels et de l'autre, d'autres formes d'intérêts, intérêts publics notamment? Est-ce que c'est un hasard si à chaque fois que vous avez une décision difficile, le résultat de cette décision-là favorise votre propre intérêt personnel? Est-ce que c'est un hasard? Hein, il y avait un étudiant à l'hiver 2020 qui m'avait posé cette question-là à la fin de son travail pratique. Hein, l'étudiant m'avait demandé... Bon, on a fait notre analyse du TP2, puis à la fin, c'est-tu normal, c'est-tu correct si ben, c'est moi qui prends la décision, puis en même temps, la décision a fait plutôt mon affaire. Est-ce que c'est normal que celui qui prend la décision y tire les principaux bénéfices de cette décision-là? Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Et ce à quoi j'avais répondu, ha ha ha, je pense que tu as bien compris c'est quoi la question du conflit d'intérêts. Parce que c'est notre thème d'aujourd'hui, le conflit d'intérêts. Vous le voyez, un conflit typique entre, d'une part, les intérêts personnels. On a vu le conflit de loyauté. Hein. Donc là, c'était un conflit qui était différent, c'est-à-dire que d'une part, des intérêts qui sont plutôt liés à votre statut de travailleur et de l'autre, votre statut de professionnel. Donc, c'est pour ça qu'on l'a nommé conflit de loyauté. Ici, c'est un autre type de conflit, mais là, d'un côté, il y a vos propres intérêts personnels et de l'autre, des intérêts qui sont liés à l'exercice votre profession. C'est ce qui se passe lorsqu'un conflit d'intérêts. Parce que dans l'exercice de votre profession, et votre ordre professionnel va sûrement invoquer ce genre de terme, c'est surtout le terme de désintéressement qui est utilisé. Hein? Désintéressement, c'est ça là. Se départir des intérêts. Quels intérêts on souhaite se départir? Ben, vous comprendrez le sens caché, c'est plutôt l'idée qu'on vous demandera éventuellement un exercice qui est extrêmement difficile, noble, mais extrêmement difficile. Hein, faut voir l'ampleur de la tâche qui vous est demandée. Sacrifier une partie de vos propres intérêts personnels au profit de l'intérêt public. Ça semble simple à articuler comme ça, mais allez-vous en être capable de sacrifier une petite partie de votre intérêt privé, personnel, au profit de l'intérêt public? Alors regardez ce qui se passe avec la COVID en ce moment. Tu sais, on tente de vous confiner, puis il y en a plusieurs qui ont ce genre de dilemme. Est-ce que C'est difficile. J'aimerais ça voir telle personne. J'aimerais ça faire telle chose, tel geste. Ou est-ce que de l'autre côté, ben non, je respecte plutôt les règles de confinement parce que ces règles-là sont là pour l'intérêt public. Alors, regardez le nombre de fois où entre les deux, hein, les personnes vont choisir à la fin. Bon, ils vous diront que c'est la décision la plus raisonnable, mais curieusement, cette décision raisonnable fait plutôt leur affaire, hein, sert plutôt leurs intérêts personnels, privés, individuels. Et là, ici, ce n'est pas pour juger personne, c'est pour vous montrer la difficulté de cette tâche qu'est celle de sacrifier votre propre intérêt personnel au profit d'autres choses. Parce qu'il faut être honnête, chers amis, nous avons tendance à privilégier. Et lorsque je dis ça, nous avons tendance, c'est quelque chose de l'ordre du naturel, des biais psychosociologiques qu'on reviendra, de ce que nous sommes, de notre au plus profond de nous, là, nos réflexes, je dirais. Là, c'est plutôt un réflexe, une tendance qui est celle de protéger son propre intérêt personnel, individuel. Ajoutons à cela que c'est normal, que même que c'est humain. Donc, ce qu'on vous demande à quelque part, c'est de dépasser ce petit côté humain-là, dépasser votre simple humanité pour vous élever à quelque chose de peut-être mieux ou de moins. En tout cas, c'est quelque chose de difficile à poser comme geste. Donc, d'où l'importance de déjà commencer à réfléchir à ce genre de questions, puisque c'est la hauteur de la tâche là, qui vous attend. L'exemple qu'on va voir en classe, c'est celle des petits cadeaux. Ça, c'est un bel exemple de dilemme que vous allez rencontrer. C'est que dans l'exercice de la profession, il y a toutes sortes de façons d'inciter une personne à favoriser son propre intérêt personnel et parfois, c'est au détriment d'autres intérêts. Les cadeaux, c'est intéressant pour ça. Hein, on donne une petite paire de billets de hockey ici, une petite bouteille de vin là, puis une petite carte là, puis un petit voyage peut-être de pêche là. Puis chacun, disons, si on prend les paires de hockey, les paires de billets de hockey ou de foot, il faut voir là, c'est quel sport qui peut vous faire savoir sur quelle ficelle on peut tirer. Mais ce qui fait en sorte que ces petits cadeaux-là, une fois, de temps en temps, peut-être que ça n'influence pas nécessairement votre prise de décision, mais le cumul de tout ça là, risque, à la fin, de vous faire basculer plus du côté de l'intérêt personnel au détriment d'autres intérêts, hein, les intérêts de votre employeur, les intérêts du public, les intérêts de votre client. Tout à coup, c'est l'intérêt personnel qui prend un peu le dessus. C'est dans cette là de questions éthiques que nous allons aller aujourd'hui. Le but, encore une fois, ce n'est pas nécessairement de blâmer quiconque, de condamner une pratique, mais plutôt de voir c'est quoi qui est à l'œuvre là, lorsqu'on donne des petits cadeaux, qu'on accepte des petits cadeaux. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les impacts de ces petits cadeaux sur votre jugement, hein? À la fin, c'est la qualité de votre jugement personnel qui pourrait être influencée par ces petits cadeaux. Donc, on parle du conflit intérêt. Hein? Vous, hein, vos propres intérêts personnels, la force de ces intérêts personnels, comment on peut jouer sur vos propres intérêts personnels pour parfois vous faire dévier de votre promesse de service d'autres intérêts qui sont davantage liés à votre profession. Encore une fois, nous avons tendance, et vous le verrez, et dans le cours, j'aurai plusieurs exemples à vous donner, nous avons tendance à privilégier, protéger notre propre intérêt personnel. C'est normal, c'est humain. Mais ce qu'il faut bien tenir compte là, de... Il faut bien voir les conséquences de tout ça. C'est-à-dire que oui, on admet que c'est normal, mais en même temps, il y a un risque qui est associé à ça. Surtout pour des personnes comme vous dans l'exercice de la profession, le risque, c'est qu'à terme, vous privilégiez un peu trop vos intérêts personnels et ces intérêts personnels-là, le fait, ce privilège accordé à vos intérêts personnels risque d'être fait au sacrifice de l'intérêt public. Et dans le cours, je vais vous présenter plusieurs études qui vous démontreront que ce risque existe pour ceux qui en douteraient. Mais en plus, et ça, il faut l'ajouter, qu'on a plutôt tendance à sous-estimer des risques lorsque nous sommes personnellement concernés. Donc ça, c'est une autre couche de difficulté. C'est-à-dire que souvent, si on parle en matière de conflit d'intérêts, vous serez en conflit d'intérêts où vous allez reconnaître que le fait d'être en conflit d'intérêts, ça présuppose un risque. Vous allez le reconnaître surtout lorsque ce risque est pris par d'autres. Mais lorsque ce sera vous qui allez prendre ce risque, vous aurez tendance à minimiser, plutôt à réduire la force de ce risque, donc à sous-estimer ce risque. Donc, il y a ça qui est aussi à l'œuvre. Il faut le savoir, et là ici, dans le cours, vous le verrez, il y a plusieurs biais psychosociologiques qui seront mentionnés. On en mentionnera quelques-uns là, dans les prochains cours. Celui, entre autres, qui sera exposé pendant le module, c'est le fait que le sujet, donc vous, vous vous jugez souvent moins exposé à la plupart des risques que vous reconnaissez pour autrui. Il y a plusieurs exemples que je pourrais vous donner. Vous conduisez, par exemple, une voiture, vous êtes en train de... Est-ce que vous devez texter? Bien, vous le savez. Puis si je vous demande, est-ce qu'il y a un risque associé au fait de texter? Vous allez me répondre que oui, mais vous pourriez aussi me répondre que dans votre cas, vous pouvez quand même, vous êtes assez habile au volant, vous allez faire ça vite, puis vous êtes un peu plus à l'abri que quelqu'un d'autre qui peut-être conduit moins bien et peut-être moins alerte et peut-être une personne qui est plus vieille, moins sage que vous, etc. Donc il y a ça qui est à l'œuvre. Il y a aussi un autre biais que nous allons aborder dans ce module. C'est le biais qu'on appelle de la tâche aveugle. C'est-à-dire que même si je vous explique des biais cognitifs, même si vous reconnaissez ces biais cognitifs, vous aurez tendance à ignorer vos propres biais cognitifs à l'œuvre. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je vais vous mentionner, expliquer quelques biais psychosociologiques dans ce module. Mais ce que d'autres études montrent, c'est que même si vous connaissez l'existence de ces biais, vous avez tendance à ignorer vos propres biais psychosociologiques. On parle de racisme systémique en ce moment. Ces biais psychosociologiques là, sont à l'œuvre lorsqu'on parle de racisme systémique. Ce qu'on voit, c'est que les gens vont reconnaître ces biais psychosociologiques, mais on va avoir de la difficulté à reconnaître qu'ils font aussi partie du problème. Donc ça, c'est une vraie difficulté pour quelqu'un qui, comme moi, souhaite agir, transformer le système, transformer les acteurs qui éventuellement vont participer au système. Non seulement enseigner les biais, mais vous enseignez aussi que ces biais, vous avez de la difficulté à les voir lorsque vous êtes personnellement concerné. Le module 9, ce sera donc le conflit d'intérêts. C'est évidemment, la présentation que je vous en fais, elle est assez synthétique, mais je vous rassure, dans le module, on va prendre le temps d'expliciter tout ça. Hein, qu'est-ce qui vous attend en matière de conflit d'intérêts? Ce que vous allez voir dans le module, en fait, je me suis aperçu que lorsque je consultais des professionnels en exercice, ils avaient souvent de la difficulté. La plus grande difficulté, c'était l'identifier. Alors, les professionnels refusaient de voir un conflit d'intérêts. Lorsque je leur parlais des petits cadeaux, par exemple, ils avaient tendance à me dire « Ouais, mais en même temps, c'est pas un conflit d'intérêts, c'est pas grave, c'est pas... c'est ça. C'est dans cette première partie-là du module que je vais vous expliquer les nuances à faire, comment on le définit, le conflit d'intérêts. Hein, vous allez voir que c'est pas nécessairement une faute, un conflit d'intérêts, mais c'est une situation de risque. Si la personne ne reconnaît pas la présence d'un risque, vous imaginez le risque. Imaginez là, si en sciences et génie, vous êtes en train de concevoir un objet, un outil, une structure, puis il y a un risque, puis vous n'êtes pas capable de le reconnaître, ça risque de mal tourner, justement. Donc, il y a ça. Reconnaître le risque. Comment on le définit, le conflit d'intérêts? Je vais vous donner une définition. Donc, c'est une définition de juriste, vous me direz, mais en même temps, ça vous donnera une vraie définition. Hein? Désormais, quand vous allez rencontrer une situation délicate qui ressemble à un conflit d'intérêts, vous aurez une définition pour savoir si, en effet, c'est un conflit d'intérêts ou pas. Et les ingrédients que je vous donne, c'est essayer de... Le premier ingrédient, c'est le jugement. Donc, dans cette situation-là, est-ce que je suis en train d'exercer mon jugement? Est-ce qu'il y a un risque pour l'exercice de mon jugement? Est-ce que ça se peut que je sois influencé? Donc, c'est le premier... je dirais que c'est l'ingrédient central à la fin. Pourquoi on va gérer prudemment des conflits d'intérêts? C'est pour maintenir... préserver la qualité d'exercice de ce jugement professionnel. C'est quelque chose de puissant, de difficile, de délicat. Puis le conflit d'intérêts peut justement biaiser ou vicier, je dirais, l'exercice de ce jugement. Donc, c'est ça ici qu'on va essayer de préserver. Le conflit d'intérêts se fait toujours dans une relation de confiance. Donc, ça, c'est le deuxième ingrédient. Il y a quelqu'un qui vous fait confiance pour exercer un jugement à sa place. Et si... dans l'exercice de ce jugement, vous décidez de privilégier toujours vos propres intérêts personnels, la personne qui vous fait confiance va perdre confiance, non seulement envers vous, mais envers des professionnels qui ont à exercer prudemment ce type de jugement. Et enfin, dans un conflit d'intérêts, il y a des intérêts en conflit, évidemment. Donc, je vais vous aider à voir là, à quoi ça peut ressembler. L'exemple des cadeaux là, revient ici. À quoi ça peut ressembler des intérêts? Mais ce n'est pas seulement des cadeaux, que je vais aussi vous parler là, de une personne qui a, par exemple, des actions dans une compagnie puis qui tente de juger de la force ou de la pertinence d'une compagnie en question. Donc ça, c'est le dernier ingrédient, voir à quoi ça ressemble ces intérêts-là là, qui peuvent biaiser ou influencer l'exercice de votre jugement et ultimement, encore une fois, nuire à cette relation de confiance. Donc ça, c'est ce qui vous attend ici. D'abord, identifier le conflit d'intérêts. Donc, je vais vous donner une belle définition. Je vais vous montrer comment, avec quelques ingrédients, je vous en ai nommé trois, pour vous aider à identifier un conflit d'intérêts. Hein, qu'on sorte là, de cette torpeur-là là, qui est très malsaine, là, je dirais, pour l'exercice de la profession, le fait de nier toujours qu'il y ait un conflit d'intérêts. Difficile de gérer un conflit d'intérêts si sans cesse ceux et celles qui vous entourent nient l'existence même de ces conflits d'intérêts. Donc ça, c'est la première étape que nous allons faire ensemble. Et une fois qu'on est capable d'identifier un conflit d'intérêts, après, nous allons le gérer, le conflit d'intérêts. Donc c'est une situation de risque. Et comme n'importe quelle situation de risque, il faut, et nous sommes capables de faire ça, gérer ce risque. Mettre en place des mesures de prudence, peut-être supplémentaires, pour réduire la force, les impacts, les conséquences négatives associées à ce risque. Et ça, vous êtes bon pour gérer tout ça. Donc ça, là, vous allez voir, là, dans la définition, dans le module, je donne beaucoup de place à cette définition du conflit d'intérêts. Parce qu'une fois que vous l'avez comprise, cette définition, vous êtes bon pour trouver des pistes de solutions pour le gérer. Alors que si vous êtes incapable de reconnaître une situation de conflit d'intérêts, difficile pour vous ensuite de résoudre ce conflit d'intérêts si vous niez son existence même. Et parmi les solutions que nous allons voir ensemble, il y a évidemment le classique « éviter le conflit d'intérêts ». Ça, c'est intéressant. Vos autres professionnels vous demandent d'éviter le conflit d'intérêts. Jamais on va vous expliquer c'est quoi. Ou très peu, je dirais, ou pas assez, très certainement, mais on va vous demander d'éviter le conflit d'intérêts. Or, vous allez le voir, dans l'exercice de votre profession, éviter tous les conflits d'intérêts, c'est difficile, sinon même impossible. Alors que, au contraire, hein, vous pouvez reconnaître l'existence d'un conflit d'intérêts. Essayez de les éviter, mais lorsque vous en êtes incapable, mais il y a toutes sortes d'autres pistes de solutions correctrices que vous pouvez mettre en place. Divulguer le conflit d'intérêts. divulguer et gérer le conflit d'intérêts. Là, ici, vous pouvez même faire participer un client. Le client, vous avez un conflit d'intérêts, vous le confiez au client. Le client va vous aider à gérer ou trouver une solution qui puisse satisfaire l'ensemble des parties prenantes. Vous pouvez délester des intérêts qui posent problème, déléguer l'exercice du jugement à quelqu'un d'autre, refuser d'exercer votre jugement parce que vous craignez qu'il puisse être biaisé. Puis à ce moment-là, on peut déléguer le jugement à quelqu'un d'autre. Vous craignez que votre jugement soit légèrement biaisé, vous pouvez vous faire superviser, auditer. C'est ça, là. C'est le type de solution que vous pouvez mettre en place. Évidemment, il y a à l'autre bout du spectre, il y a l'idée de sanctionner. Et qu'est-ce qu'on va sanctionner? Souvent, c'est des personnes qui étaient en conflit d'intérêts, l'ont pas identifié et l'ont mal géré. Alors que si vous êtes capable de reconnaître un conflit d'intérêts, vous êtes capable de le résoudre, bien éventuellement, vous éviterez évidemment les sanctions qui peuvent être associées à ça. Donc, c'est ce qui vous attend au module 9. Les objectifs sont simples. Lorsque vous allez les consulter, être capable de définir le conflit d'intérêts, être capable de reconnaître des situations de conflit d'intérêts. Donc, si vous avez une bonne définition, ça devrait être plus simple pour vous de les reconnaître et éventuellement de proposer différentes solutions de gestion pour résoudre et gérer ce conflit d'intérêts en proposant là, des pistes d'action appropriées. Ce sont plutôt les objectifs que nous tenterons d'atteindre ensemble au module 9. Avez-vous des questions sur ce module 9? Sinon, j'en ai quelques questions pour vous parce que il y a quelques questions qui commencent à ressurgir là, sur les forums de discussion. Entre autres, il y avait une question d'Antoine Arsenault qui s'inquiétait à propos du fait que l'examen final dure 5 heures. C'est comme ça qu'il avait formulé sa question. Est-ce que c'est normal que l'examen dure 5 heures? Ce à quoi j'avais répondu, parce que vous allez voir, là, si vous allez voir à l'examen, il y a une plage horaire. Puis effectivement, la plage horaire, je pense que c'est de 6h30 à 11h30 le soir. Donc, ça pourrait être tentant ou plutôt inquiétant de regarder ça en vous disant, bien, un examen, ça ne peut pas durer 5 heures, là, surtout pas jusqu'à 11h30 le soir. En fait, c'est une période de disponibilité. Donc, ce sera à vous de voir, l'examen est disponible pendant 5 heures. J'estime qu'il vous prendra à peu près 120 minutes à résoudre cet examen. Donc, c'est à vous de voir ces 120 minutes-là, là, vous voulez les consacrer à partir de quelle heure à quelle heure. Si pour vous, c'est de 6h30 à 8h30, ce sera fait. Si c'est de 8h30 à 10h30, ça peut être aussi ça. L'important de comprendre, c'est que j'ai tenté d'accommoder, il y a entre autres des personnes qui ont des mesures d'accommodement, donc qui ont besoin d'un peu plus de temps et qui ont droit à un peu plus de temps pour compléter leur examen. Donc, eux aussi ont droit à ces 5 heures-là. Il y en avait d'autres qui avaient un conflit avec un autre examen dans un autre cours. Le cours se terminait ou l'examen se terminait à 7h30. Donc, pour eux, ils vont aussi pouvoir faire leur examen. Pour eux, ça sera entre 7h30 et 11h30. Mais ce 5 heures-là sert un peu à ça. Vous donnez un peu de liberté, de souplesse dans vos horaires pour compléter votre examen. On peut faire ça avec un examen à distance, pas nécessairement tout le monde en classe à la même heure, puis on sort. Il y a un peu de souplesse, puis le 5 heures, c'est ce qu'il veut dire. Hein, typiquement, vous aurez 120 minutes pour compléter votre examen. L'examen, il va être divisé en 5 parties. Pourquoi 5 parties? Parce que je veux réduire le risque. C'est déjà arrivé dans le passé là, que l'examen plante tout à coup pour tout le monde. On ne veut pas ça. Après un examen de 2 heures, là, que l'examen plante, puis tout à coup, on a perdu, puis... Donc, c'est 5 parties. Donc, il y aura toujours au moins une partie qui sera complétée. Des fois, ce n'est pas tout le monde qui fait les mêmes parties en même temps. Donc, ne serait-ce que pour une logistique, j'aimais bien l'idée de diviser l'examen en 5 parties. Il y a aussi le fait que pour chaque partie, je cible une qualité de l'ingénieur. Là. Donc, vous avez vu le système des qualités de l'ingénieur. Donc, pour chacune des parties, je cible plus une qualité par rapport à une autre. Donc, typiquement, pour chaque partie, vous aurez 45 minutes. Une fois que la partie de l'examen est ouverte, là, vous avez 45 minutes pour la compléter. Puis, même si vous avez 45 minutes, moi, j'estime qu'en à peu près 20 minutes, vous pouvez très aisément vous en sortir. Donc, c'est ce qui vous attend. C'est pas vous installer pendant 5 heures, puis on travaille fort, puis on parle d'éthique, puis on écrit. Puis non, non, c'est à peu près 120 minutes, ce qui est une durée tout à fait raisonnable pour un examen. Divisé en 5 parties, vous pouvez même prendre des pauses entre certaines parties. On s'en va dehors, on prend un peu d'air. On s'étire, on texte un peu ou pas trop, on s'assure de ne pas tricher en textant, mais on prend une petite pause, on y va à son rythme, puis vous avez 5 heures pour compléter ces 5 parties. Donc j'espère que c'est un peu plus clair. Il y a Siri qui a répondu, je ne sais pas ce que j'ai dit là. Mais Siri m'a entendu, puis elle n'est pas contente, ou elle avait quelque chose à me confier. Donc, l'examen final, ça ressemblera à ça. Il y avait aussi une question de Camille Bouchard, désolé Camille, des exemples d'examens des années passées. Donc, ça, c'est un sujet important. Chaque année, les étudiants me demandent est-ce qu'il y a des examens des années passées, est-ce qu'on peut utiliser des exemples des années passées, et ce à quoi je réponds, non, il n'y a pas d'exemple d'examen passé, et non, et oui, je l'interdis formellement. Je sais que c'est une pratique qui est tolérée, sinon promue, hein, par certaines parties prenantes. Pour moi, Je résiste fortement. Je ne vois pas comment que ça peut être un outil. Ben, je comprends si le prof, il n'y a aucun outil formatif, puis vous n'avez aucune idée de ce à quoi peut ressembler son examen, mais en même temps, si c'est ça, c'est que le prof, il n'y a pas nécessairement... Un prof honnête et rigoureux, je dirais, là, c'est parce qu'il y a une partie du boulot qui n'a pas été faite. Parce que, regardez comment je vous donne... des indices, sinon des éléments très importants pour anticiper mon examen. Donc, je vous dis, n'utilisez pas des exemples d'examen. Il n'y en a pas, je ne veux pas qu'ils circulent. Mais en même temps, je vous donne tout ce qu'il faut pour vous préparer à ces examens. Je vais me permettre de le répéter encore ici aujourd'hui. À chaque module, il y a des objectifs de module. Puis un professeur, le moindrement honnête et organisé, ben, la façon qu'il conçoit son examen, c'est qu'il vérifie si vous avez atteint les objectifs de chaque module. Donc, les objectifs doivent être atteignables et mesurables. Puis à l'examen, on va regarder si vous les avez atteints et dans quelle mesure. Voilà, ça doit ressembler à ça. Donc, si vous voulez des exemples, je vous ai donné plusieurs exercices formatifs, les forums, les questionnaires, les mini-tests que certains d'entre vous voient dans les enregistrements de cours. Tout ça, c'est des exemples de questions que je pose pour vérifier si l'étudiant a atteint les objectifs que j'ai annoncés dans chaque module. Donc voilà, il n'y a pas d'exemple d'examen. Mais en même temps, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour anticiper ce à quoi peut ressembler l'examen. Je n'inventerai pas un examen qui vous prendrait par surprise en disant « Voilà, vous avez un cahier bleu, là, je vous pose une question existentielle, puis écrivez pendant 10 pages. » C'est pas quelque... Ça serait impossible que je vous pose ce genre de questions-là. Les questions que je vais vous poser, c'est des questions qui ressemblent à celles que je vous ai posées. C'est surtout des questions qui ciblent exactement les mêmes objectifs que j'ai annoncés à chacun des modules. Alors, ce serait tout. Je me permets de vous rappeler que le TP2 est à remettre dans 20 jours. Donc, si vous travaillez à chaque jour, il vous reste 20 jours, j'en doute fort. La date de remise est le 5 juillet. À 23h59. Je vous invite à ne pas attendre à 23h59 avant de déposer votre problème. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite, oui, une excellente semaine. Prenez soin de vos proches et, encore une fois, prenez soin de vous. OK, bye bye.